Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel.
Nous sommes sur un mont où il y a les marées ici, et les gens admirent les marées. C'est un mouvement qui est admirable. Mais dans ce mouvement, il y a les marées hautes et les marées basses. Alors nous devons nous placer, je pense, non pas dans les marées hautes ni dans les marées basses, mais dans l'équilibre de l'océan qui nous entoure, qui fait partie de notre vie quotidienne, et demander au Seigneur de garder vivant en nous cet esprit d'enfance qui a été très développé par Thérèse de Lisieux, l'esprit d'enfance spirituelle. C'est cette confiance absolue envers le Seigneur, envers le Père. Thérèse dira, quand bien même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras du Père, certaine de sa miséricorde, certaine de sa bonté, parce qu'elle se considérait comme l'enfant du Père. Elle en porte le nom, Thérèse de l'enfant Jésus. Eh bien, nous aussi recherchons cet enfant. Allez chercher l'enfant qui est en vous. Laissez l'enfant prendre la place en vous. Parce que le contraire ne nous fait pas grandir. Nous avons des contrariétés qui parfois nous emprisonnent. Hier, j'en ai eu une. Nous avions été invités par quelqu'un à venir le rencontrer en après-midi. Nous l'avons fait. Ce ne fut pas une rencontre. Alors j'ai été vexé, je n'étais pas content. Je n'ai pas manifesté, mais en moi, je sentais que je me refermais. J'entrais dans ma prison. C'est seulement par la prière que nous pouvons en ressortir. Alors les grands disciples qui sont avec Jésus entrent souvent dans la prison lorsqu'ils veulent être les premiers, les plus grands, ceux qui sont reconnus, etc. Et Jésus les fait sortir de prison. Allez chercher l'enfant en vous. Laissez vivre l'enfant en vous. Parce que le royaume appartient à cet enfant. Ça, c'est une chose. La deuxième dans l'Évangile, c'est Jean, c'est ce disciple que Jésus aimait et qui aimait Jésus. Il l'aimait tellement qu'il en devient aveugle. Jésus, on a vu des gens faire du bien en ton nom. Et on leur a dit, c'est assez, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que Jésus répond ? Et c'est intéressant de voir que Jésus répond à Jean et aux autres, et il leur dit qui n'est pas contre nous et pour vous. Il n'a pas dit et pour moi, et pour vous, c'est pour toi Jean, c'est pour toi Jacques, c'est pour vous. que ces gens sont en communion, même s'ils ne nous suivent pas, ils sont en communion parce qu'ils annoncent la même chose que vous. Ils m'annoncent, moi, Jésus, alors ils ne sont pas contre vous, ils sont avec vous. C'est dans l'Église, à mon avis, à divers niveaux, cette responsabilité d'accueillir toutes les formes d'expériences spirituelles, religieuses, tout au moins de leur donner la chance de respirer et de vivre et de se trouver. Nous en parlions hier avec mon collègue en disant que dans ce pays, en France, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de fondations. Nous sommes ici à la Fraternité monastique de Jérusalem. J'ai rencontré, il y a plusieurs années, j'ai fait une entrevue avec le fondateur, le père Pierre-Marie Delfieux, je l'ai rencontré. Alors, un fondateur des fondations.
Les carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet, dans le rôle d'un cousin de Jésus, Denis Lamontagne, sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte, Denis Veilleux. Aujourd'hui, un cousin de Jésus. Narration, Denis Lamontagne.
J'avais 10 ans lorsque Jésus est né. Tout ce que j'ai entendu avant sa naissance était de nature à bouleverser l'enfant que j'étais. C'est qu'il s'en est dit des choses au sujet de sa mère et de mon oncle Joseph. Moi, je suis le cousin de Jésus par mon père. L'arrivée au monde de Jésus ne s'est pas faite sans heurts. En fait, le choc a commencé bien avant sa naissance, quand on s'est mis à douter que l'enfant venait du père. Marie était partie de Nazareth pour se rendre auprès d'une parente. Cette cousine, assez âgée, attendait un enfant. De son côté, Marie était fiancée. Son absence a été une bêtise, puisqu'à son retour, Marie ne pouvait cacher, tant c'était évident, un changement d'état qui a fait parler les bonnes comme les méchantes langues. Toute la famille a été prise dans cette histoire, et mon oncle Joseph a subi beaucoup de pression de ses proches pour la renvoyer s'il n'était pas le père de l'enfant. Lui, gardant son calme, ne répondait pas. Ma mère affirmait que le frère de son mari souffrait en silence. Et quand elle voyait Marie tout sourire, elle trouvait qu'elle était hypocrite et qu'elle savait bien cacher les choses. Elle n'était pas la seule. Mais qui était le père de l'enfant si ce n'était l'oncle Joseph? Ça, personne ne pouvait l'avancer. Marie n'avait jamais été vue en présence d'autres hommes. Et les fiançailles nous avaient montré, tout au contraire, qu'elle aimait beaucoup Joseph. Après son retour, il ne s'est pas passé beaucoup de temps pour que le mariage soit annoncé. Suivant la rumeur, il fallait bien sûr précipiter les événements pour ne pas laisser monter les soupçons qui avaient déjà trop d'adeptes. Dans la famille, ayant des yeux pour tout voir et papotant entre elles, il m'a semblé que c'était les femmes qui étaient les plus excitées. Le mariage s'est préparé dans ce contexte. Lors de la cérémonie, un incident est survenu. Et il fallait bien danser, et selon la coutume, Joseph devait prendre son épouse dans ses bras pour passer le seuil de sa demeure. Tout le monde a été surpris qu'il n'y ait pas de danse, ni ce rite du passage de la mariée dans la maison de l'époux. Mais encore plus quand, auparavant, Joseph a entraîné dans la danse avec lui les servantes et serviteurs de la noce. Nous ne quittions pas des yeux Marie et Joseph, qui tournaient main dans la main autour des serviteurs et servantes qui dansaient à leur demande. C'était beau de les voir aller, comme s'ils visitaient la terre. Ensuite est venu le rite de passage pour entrer dans la maison. Lorsqu'est venu le moment de pénétrer dans sa demeure avec son épouse, Joseph, qui portait une cage de petites colombes, les a libérées sur le seuil et celles-ci sont entrées dans la maison des époux. C'était du jamais vu. Tout le monde a salué cette nouveauté. Dans la famille, on a commenté. Oncle Joseph savait dérouter sans heurter, proposer sans forcer quiconque. Quant à ma tante Marie, elle était resplendissante et se montrait tout aussi charmée que l'assistance des ingénieuses trouvailles de son époux. Il n'empêche que les tantes chuchotaient en scrutant de quelle manière Marie allait se tenir et guettaient le moment où elle se toucherait le ventre. Ah, elles ont dû être déçues, car en aucun moment elle ne l'a fait de toute la cérémonie ni de la soirée qui a suivi. Les semaines d'ensuite, on a remarqué bien vite que son corps se transformait plus vite que la lune ne croissait. Vous savez, quand on est enfant, on entend tout sans tout comprendre. Dans mon cas, les choses se disaient avec assez de clarté pour que je comprenne. Cela ne m'empêchait pas de passer voir tous les jours mon oncle Joseph à son atelier, et quand il s'absentait pour 2 ou 3 jours, j'allais trouver de la même manière tante Marie. Un jour que j'étais chez elle, je me souviens, j'ai voulu qu'elle me dise si cela faisait beaucoup de temps qu'elle attendait un enfant. Je répétais en fait les questions que j'entendais. Elle m'a répondu que, pour une femme, devenir maman pour la première fois, c'est spécial. On aime l'enfant qu'on aura avant même le matin de ses noces. Je trouvais que c'était bien long tout ça, et que je n'étais pas plus avancé finalement. Je suis revenu à la charge. Tante Marie, quand tu étais partie chez ta parente, avais-tu déjà cet enfant dans ton ventre? Encore une fois, sa réponse m'a semblé une énigme. Être mère est une chose, attendre un enfant, une autre. Comme j'étais à court d'idées pour poser autrement ma question, je n'ai pas insisté et ma curiosité est restée sur sa fin, comme sûrement celle des membres de ma famille. Quelque temps plus tard, quand Marie et Joseph sont partis de Nazareth, les langues se sont déliées plus que jamais. Les deux devaient faire un aller-retour à Bethléem pour le recensement. Aussi, personne n'a-t-il compris qu'ils ne reviennent ici que 5 années plus tard. J'avais alors autour de 15 ans à l'époque de leur retour, et je découvrais que l'enfant était un garçon. En effet, jugeant que c'était là une excellente tactique pour faire oublier le faux départ d'un couple étrange, les membres de ma famille avaient choisi de ne plus en souffler un mot, de sorte que j'ignorais que j'avais un cousin. À Nazareth, les gens n'en avaient pas moins leur idée sur Marie et Joseph. Leur absence n'avait que nourri les doutes. Un argument est venu s'ajouter dans l'esprit de certains. La ressemblance évidente entre la mère et l'enfant. Cela semblait une preuve que Joseph n'était pas le père. Toutefois, au fil des ans, on a commencé à changer de discours. Quand on les voyait ensemble, l'oncle et Jésus, les manières de se tenir et d'agir ne trompaient plus. Ils étaient bien père et fils. C'est étrange comme les choses s'ajustent avec le temps. On part sur des rives qui sont à l'opposé Et petit à petit, l'eau s'évapore et les rives se touchent jusqu'à se confondre. Ce que je vous raconte là, c'est tout ce qui est venu à mes oreilles au sujet de la naissance de mon cousin, dont on s'est longtemps questionné sur le père. Ce n'était rien en regard de ce qui devait suivre. Ce petit bout d'homme qui naît ailleurs, qui refait surface 5 ans plus tard, et qui travaille avec son père, il n'en fallait pas davantage pour faire jaser lorsqu'il est revenu d'un autre voyage, après s'être rendu, comme bien des gens du village, auprès de Baptiste.
« Ah! Lui! Ah! Prophète! Lui qui annonce des paroles venant de Dieu! Lui qui fait des miracles! Ah! Ah!
On va voir ce qu'on va voir! Ce n'est que le fils d'un charpentier, et de plus, on connaît sa lignée et son histoire. » Voilà ce qui se disait dans la famille. Moi, j'étais déjà d'un certain âge, et je me tenais loin des cousins plus jeunes qui, au fond, le jalousaient, c'était évident. On aurait dit de petits bouquetins courant sur les hauteurs pour faire tomber en bas tout ce qui leur semble un obstacle qu'on aurait mis sur leur route. Lorsqu'ils ont décidé que c'en était assez, ils sont passés à la violence et ont entraîné malgré elle ma tante Marie avec eux pour ramener le gêneur de force au village. Les plus remontés de mes cousins l'accusaient d'être devenu fou, avec pour preuve qu'il oubliait de manger et de faire manger les gens venus en foule. Ils lui reprochaient de s'adresser à eux des heures et des heures dans des endroits déserts. Un charpentier qui s'improvise du jour au lendemain prophète, ça ne fait pas très sérieux. C'est même louche. Leur attitude ne me disait rien de bon. J'ai décidé d'accompagner tante Marie dans leur expédition. Alors que les autres avançaient comme des enragés, ma tante, elle, s'est tenue silencieuse tout au long de la route. Nous sommes arrivés finalement à un endroit où on nous avait dit qu'on le trouverait sûrement. Il n'était pas là. Mes cousins ont cependant reconnu certains hommes de l'entourage de Jésus. Pour toute présentation, ils n'ont rien trouvé de mieux que de leur montrer le point. Les hommes qu'ils défiaient avaient à peu près le même âge et n'avaient pas froid aux yeux. Craignant un combat, ma tante est intervenue et s'est braquée devant eux. Mes cousins, qui s'étaient donné pour mission de le ramener coûte que coûte, se sont tout de même calmés. Pendant un long moment, les deux camps sont restés dans un face-à-face sans dire un mot. Profitant de cette accalmie, moi j'avais pu m'informer davantage auprès d'un vieil homme qui m'avait semblé avenant et sage. Je suis revenu ensuite auprès des autres et me suis proposé pour aller le chercher dans la maison que l'autre m'avait indiquée. Comme ce que je découvrais sur les lieux pouvait contraster avec l'animosité que je venais de vivre dehors. C'était le jour et la nuit. J'ai aussi été étonné de constater que dans cette maison, les gens buvaient ces paroles alors qu'ils leur racontaient une histoire qui parlait du royaume de Dieu. Soudain, et cela n'est pas venu de moi, on lui a fait savoir que sa famille était dehors à l'attendre et que sa mère était du nombre. À ces mots, il a fait le tour de l'assistance pour s'assurer que son message serait compris. « Ma famille, elle vous ressemble. Elle est faite d'un père, d'une mère, de frères et de sœurs qui vivent sous le même toit, la maison du père. Et cette maison se construit à même les paroles que je vous dis et qui se tiennent ensemble. » J'ai compris dès lors que mon cousin Jésus était un homme libre. Et je suis revenu vers ma tante, que j'ai prise par la main afin que nous rentrions tout simplement à Nazareth. Quant aux autres fâcheux de la famille, voyant ce que nous faisions, ils sont restés bouche bée, comme plantés là. Plus tard, de retour chez tante Marie, nous avons appris qu'ils nous avaient imités. Sur le chemin du retour, J'avais tout de même pris le temps de rapporter à tante Marie ce que j'avais entendu de son fils. Elle avait souri.
Vous venez d'entendre « Un cousin de Jésus », la 11e d'une série de 13 émissions intitulée « La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales », texte et musique, Denis Veilleux, narration, Denis Lamontagne, à la technique, Yannick Caron, réalisation, Jacques Leblanc.